écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Le couple a-t-il un avenir ? Telle est la question retenue ce soir pour cette émission. Mais avant de vous la présenter et de présenter notre invité, voici quelques informations sur cette émission au cours de l'année 2016-2017. Nous aurons cette année 21 émissions, c'est la deuxième, toujours le quatrième vendredi du chaque mois et d'autres jours, ainsi par exemple mardi prochain, 29 novembre, mercredi prochain, 30 novembre. Vous trouverez la liste sur le site, en petits caractères et reliés, art au pluriel, culture au pluriel, éducation singulier.com/. Parmi les projets en cours, une très belle émission à deux jours de Noël, le 23 décembre exactement, qui aura pour thème « Écho du monde ». Une autre émission avec Edgar Morin. Une autre émission éditeur et auteur en Corse. Nous aurons aussi une émission avec Jean Dormesson et deux adolescentes. Des émissions pratiquement historiques, mais nous aurons les voix de ces auteurs qui marquent encore le XXIe siècle, Gaston Bachelard, Henri Laborie et quelques autres personnes. De plus, certaines émissions seront extraites d'émissions beaucoup plus longues que vous trouverez sur le site. C'est le cas de ce soir. L'émission initiale dure 1h15. Nous allons en entendre tout à l'heure que quelques extraits. Le couple a-t-il un avenir ? Et nous avons fait appel à Bruno Décoré, qui a un parcours atypique. Universitaire dans le domaine des mathématiques, à un moment donné de sa vie, il change complètement de cap. Il passe son doctorat en psychologie, devient praticien-chercheur sur la psychologie familiale, écoute 2000 personnes lors d'entretiens, soit des gens qui sont en couple, soit des gens qui vont être en couple, et de plus, il engage des recherches personnelles très approfondies dans ce domaine. Il publie sur Internet un livre en hypertexte, dont je vous parlerai tout à l'heure, « Couple, théorie, pratique, histoire, études ». Je vous dirai pourquoi l'hypertexte, comment le trouver, mais si vous voulez bien, nous allons commencer par écouter Bruno Décoré, qui est à Lyon, qui est venu spécialement pour cette émission que nous avons enregistrée il y a quelques jours. Écoutons Bruno. Le couple a-t-il un avenir ? Dans un monde en profonde mutation, dans tous les domaines, cette question aussi se pose. L'amour, le mariage, le couple, la vie à deux, voilà des positions différentes mais complémentaires pour aborder cette question. La littérature en ce domaine est vaste et continue de le rester. Romans, poésie, chansons, essais, mais aussi l'apport des philosophes. Quel philosophe n'aborde pas ce thème ? Il y a aussi les études, les recherches, parfois mal comprises et abstraites, nous y reviendrons. Puis, dans le champ de la santé, il y a les médecins, les sexologues, les thérapeutes, les psychologues, contractions qui couvrent un vaste domaine. Pour cette émission, c'est un praticien-chercheur de Lyon que nous accueillons, Bruno Décoré. Un homme au parcours très original, universitaire en mathématiques pour commencer, qui s'oriente vers la psychologie, il est docteur en psychologie, un mari qui divorce et se remarie, un père qui a trois enfants et se voit confier lors d'une mission en Afrique un bébé, un auteur déjà de deux livres sur les pères, nous en reparlerons dans cette émission, un praticien-chercheur sur le couple qui articule son parcours de vie, des recherches personnelles et plus de 2000 entretiens avec des personnes vivant en couple ou souhaitant vivre en couple. Ce couple qui est au centre de la plupart de nos vies, comme creusé entre l'amour ou la haine. Ce couple qui peut être un lieu d'épanouissement ou une prison. Ce couple qui oscille entre le paradis et l'enfer. Le couple, voilà un sujet complexe, mais un sujet beaucoup trop négligé et dont les négligences peuvent coûter très cher en santé, en finances et en mode de vie. Sujet si complexe qu'à juste titre, l'auteur choisit le pluriel pour aborder le couple. Il parle des couples. Bruno, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cet entretien sur le couple a-t-il un avenir ? Alors, tout d'abord, une première question, brièvement, si possible. Qu'est-ce qui vous a conduit à travailler sur le couple et à devenir thérapeute et praticien-chercheur ?
Eh bien, je ne m'en cacherai pas. C'est ma propre vie de couple. J'ai vécu en couple, je vis en couple, j'ai eu plusieurs expériences de couple qui m'ont amené à réfléchir, qu'il y en a eu une en particulier dont la fin a été difficile, et j'ai passé un temps où je souhaitais ne pas vivre en couple. Et puis, un heureux hasard a fait que j'ai à nouveau revécu une vie de couple, et je me trouve plutôt bien. Et puis, petit à petit, d'autres personnes sont venues vers moi avec des problématiques de couple dans mon cabinet de psychologie. Et je me suis intéressé de plus en plus à la question. Et je me suis surtout aperçu qu'il existait de nombreuses situations où il y avait une grande souffrance dans la vie conjugale et où les moyens pour en sortir étaient simples. Donc il y a une différence entre l'intensité de la souffrance et la facilité des solutions. Et c'est ceci qui m'a le plus intéressé, ce qui m'a donné envie de regarder les choses sur un plan plus théorique, savoir qu'est-ce qui fonctionne. Alors je dirais volontiers que la souffrance conjugale ou amoureuse est peut-être une des pires qui soit, mais peut-être une des moins graves, parce qu'elle peut se rectifier assez facilement.
Alors justement, à propos du couple, vous utilisez le pluriel. Pourquoi parler des couples et non pas du couple ?
Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de façons de considérer le couple et de vivre le couple. D'abord, je voudrais préciser que le couple n'est pas natif de l'être humain. C'est des siècles, des millénaires d'évolution qui ont conduit à ce que la structure couple soit un des piliers d'une société, de notre société moderne. L'homme ne naît pas individu conjugal. Il y a diverses façons de vivre la notion de couple. Il y a encore une cinquantaine d'années, la question ne se posait pas. Un couple, c'était un homme et une femme mariés. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup d'autres possibilités. Donc je ne pense pas que l'on puisse voir la chose au singulier. Et puis, vous me présentiez tout à l'heure comme praticien-chercheur, et je vous en remercie, puisque c'est à partir de la pratique que j'ai essayé de théoriser, et j'ai vu des couples. Et mon travail n'a jamais été de leur dire comment ils devaient vivre un couple, mais plutôt de les aider à trouver leur solution dans leur vie de couple, ou peut-être en mettant fin à la relation de couple en question. Donc je crois que la diversité est peut-être une des premières caractéristiques de l'objet couple.
Alors, vous venez de prononcer le mot de mariage. Est-ce qu'autrefois le mariage n'étouffait pas le couple ? Et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le couple fonde le mariage ?
Alors, je ne dirais pas qu'autrefois le mariage étouffait le couple. Je disais que le mariage encadrait le couple. Et il pouvait être donc dans certains cas un soutien et dans certains cas un empêchement. Comme tout cadre, plus un cadre est rigide, plus il est sécurisant, mais plus il est contraignant. Le fait que l'on ait assoupli, voire fait éclater ce cadre, a augmenté les capacités de liberté, mais a aussi introduit de l'insécurité. Le couple moderne, non cadré par un mariage ou une institution comme le Pax ou autre, a en théorie plus de liberté, mais du fait qu'il soit beaucoup moins stable et beaucoup plus insécure, il va finalement nuire à la liberté de chacun. Donc je dirais actuellement, vous disiez, est-ce que le couple fonde le mariage ? Le mariage est une institution liée au couple, mais c'est une institution, c'est-à-dire c'est un moyen de relier la vie de deux individus à la société dans laquelle ils sont. Le mariage institue un couple en rapport avec la société dans laquelle ils se trouvent. Il n'épuise pas le couple, il en est une façon. Est-ce que ça répond à la question ?
On peut être un couple et ne pas être marié.
On peut être un couple et ne pas être marié. Et je dirais même, j'irais même plus loin, on peut être un couple sans que ça se sache. Et j'ai rencontré des couples qui vivaient totalement dans le secret. Par exemple, des couples, je suis un peu provocateur, mais je l'affirme, de personnes qui étaient mariées, chacun avec un conjoint différent, mais qui avaient réellement entre eux une vie de couple complètement secrète. Je raconte une histoire dans mon livre, et histoire bien entendu inventée, mais inspirée d'une situation réelle. Donc le couple peut être secret.
Donc il y a plein de façons de vivre, d'assumer son couple.
Absolument. Il y a une grande diversité, ce qui du coup va rendre difficile la définition. Qu'est-ce qu'un couple ?
Alors selon vous, c'est quoi un couple ?
Alors, je n'ai pas pu trouver une seule définition, j'en ai trouvé deux. Une qui est celle qui est la plus répandue, qui est amusante, c'est une définition que l'on dit imprédicative, elle va être, c'est lancé de la façon suivante, un couple est formé de deux personnes qui disent vivre en couple. C'est-à-dire le couple se définit par le couple lui-même. Et c'est la plupart du temps la façon dont les gens se définissent. Je ne parle pas des gens mariés, mais des gens vivant en couple non mariés, ils disent, ben oui, nous sommes en couple parce que nous sommes en couple. C'est la première définition. Après ça, j'ai essayé d'avoir une définition plus extrinsèque, qui ne se fonde pas que sur la nomination des individus, mais qui se fonde sur leur réalité de vie. Et je n'ai pas trouvé une seule phrase, mais plutôt un certain nombre de critères. Un couple est fait de deux personnes qui ont un certain nombre de liens ensemble. Alors il y a des liens amoureux, il y a des liens sexuels, il y a des liens officiels, il y a des liens sociaux, il y a des liens économiques, il y a des liens familiaux, il y a des liens parentaux, il y en a un certain nombre. Et ma foi, le couple, pour moi, il existe quand il y en a un certain nombre de ces liens qui fonctionnent pas mal. Mais il peut y en avoir qui n'existent pas, et pour autant, il s'agit d'un couple.
Votre diagnostic sur le couple au 21e siècle, au début de ce 21e siècle, dans les 2000 entretiens que vous avez eus, ce qui est énorme, hein, par rapport aux des gens qui ne se contentent que de livres, vous êtes allé sur le terrain et vous avez une richesse absolument surprenante,
merci,
extraordinaire. Votre diagnostic sur le couple actuel ?
Mon diagnostic, c'est que le couple va rester dans l'avenir un pilier social. Il a tellement d'avantages socialement que on ne va pas revenir en arrière. On ne va pas revenir à des sociétés matrimoniales, à des sociétés multi-conjugales. On ne va pas y revenir, on va rester sur le couple. Mais il va falloir muter, et en particulier, il va falloir refaire des cadres qui soient à la fois suffisamment protecteurs et à la fois suffisamment libres. Autrement dit, il y en a un cadre, c'est le mariage, mais il faut y réfléchir à ce qu'il est. Moi, je crois qu'il y a de l'avenir pour le couple, mais il faut réfléchir à quel avenir et comment on va le vivre.
Alors, il y a la question de la durée. Est-ce qu'on peut imaginer un couple qui dure toute une vie encore, même si c'est minoritaire, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut écarter désormais définitivement ?
Non, je ne pense pas qu'il faut l'écarter. Oui, on peut vivre un couple pendant toute sa vie, et c'est tout à fait vivable, mais on peut vivre aussi plusieurs vies de couple. On peut aussi vivre en célibataire, ou on peut vivre des couples, comme je le disais tout à l'heure, qui sont cachés ou autres. On peut vivre diverses choses. Mais revenons au modèle principal, c'est-à-dire le couple cohabitant. Je rappelle que parmi les couples que l'on peut voir en France, à peu près 80% sont constitués de gens mariés, ou ça doit être plutôt 70% sont constitués de gens mariés, d'un homme et d'une femme mariés, vivant ensemble et se faisant reconnaître à l'extérieur par le nom du mari. Donc c'est monsieur et madame X, c'est l'essentiel des couples. Ça reste donc le modèle complètement dominant. Donc ce couple-là, et je rappelle qu'il y en a plus de la moitié qui ne se sépare pas. J'inverse volontiers le chiffre. Donc que ça reste la donnée dominante. Alors oui, c'est possible, et pas forcément dans le sacrifice du plaisir et de l'amour du départ. C'est-à-dire que le couple est quelque chose qui se vit tout le temps et qui reste tout le temps dynamique et qui peut passer par des phases de grand épanouissement et par des phases plus difficiles, comme la vie d'ailleurs. C'est pas parce qu'un jour on est malade que l'on est fichu. On peut se soigner et guérir. C'est pas parce qu'un jour on est au chômage que la vie professionnelle est fichue. On peut rebondir. La vie conjugale va être de la même chose aussi. Donc, pouvoir vivre une longue vie d'un couple et être heureux, oui, c'est possible. Tout à fait.
Mais alors, ça suppose une préparation, ça suppose une réflexion. Dans votre livre, à la page, si ma mémoire est bonne, 179, vous donnez une démarche quasiment stratégique avec 10 repères, dont le premier, c'est d'être en recherche, et la deuxième, c'est de bien définir ce que l'on veut vivre. Est-ce que vous pensez que les gens réfléchissent bien ce qu'ils veulent vivre avant de s'engager dans le couple ?
Non, à mon avis, pas assez. À mon avis, pas assez. Prenons le couple marié, par exemple. Le couple marié, le mariage, se passe en quelques minutes. Un officier d'état civil vous dit quelque chose qu'on n'écoute pas bien souvent. Et puis c'est tout. Et on n'a pas réfléchi avant à ce à quoi on s'engageait. Il serait intéressant de le savoir, de le dire, et de le dire publiquement. Mais même pour les autres couples, pour les couples non mariés, c'est encore pire, en particulier chez les jeunes. Les gens se retrouvent en couple et ils ne savent pas pourquoi. Et c'est par exemple une question que j'ai posée à des couples qui viennent me voir, des couples non mariés, qui sont en difficulté. Je parle de couples non mariés qui vivent ensemble depuis 10 ou 12 ans et qui ont 3 enfants. Et une des questions que je pose souvent, c'est quand est-ce que votre couple a commencé ? Et bien souvent, il n'y a pas de réponse. Donc les conjoints ne savent pas quand leur couple a commencé, et en tout cas, ils ne se sont jamais dit. Ils ne se sont jamais dit, nous commençons une vie de couple, et nous nous engageons à quelque chose l'un vis-à-vis de l'autre. À quoi ? À avoir. Donc tout est dans l'implicite. Et c'est au moment où cet implicite va rencontrer un problème que ça va générer du ressentiment, éventuellement, l'un vis-à-vis de l'autre. Parce que l'implicite n'a pas été le même. Donc au moment où l'explicite, ça grince. Alors c'est pas fichu. Pour autant, on peut justement profiter du passage critique pour redéfinir ce à quoi on s'est engagé dans cette relation. Et qu'est-ce que représente la vie de couple ?
Voilà. Eh bien, nous allons entendre tout à l'heure la deuxième partie de cet entretien. Je vous donne tout de suite, si vous voulez, rapidement, 5 ouvrages. Celui de Buneau Décoré, couple au pluriel, que vous trouverez sur Internet, je vous dirai comment tout à l'heure. Le jeu et le tu de Martin Buber, qui est un très très beau livre. Les couples heureux ont leurs secrets. Deux auteurs américains nous donnent 7 lois de réussite, peut-être un peu trop des recettes, mais à ne pas négliger. Oser la vie à deux de Frédéric Fanger, remarquable. Et puis quelqu'un qui nous a quittés, malheureusement, Yves Prigent, un remarquable intervenant, j'allais dire psychiatre, mais bien plus que psychiatre, l'existence amoureuse et la passion et la durée. Ne quittez pas l'antenne et on se retrouve dans quelques minutes après les informations.
Vous écoutez Agora Côte d'Azur, la radio d'actualité locale,
régionale
et internationale en continu.
Agora Côte d'Azur.
Le couple a-t-il un avenir ? Continuons avec Bruno Décoré, mais avant de l'entendre, son livre « Couple » peut être acheté aux éditions du Net, 340 pages. Il peut aussi être lu en hypertexte, et dans ce cas-là, vous allez sur Google, vous faites « couple au pluriel, point, psy, diversité.fr » et vous trouverez Bruno Décoré avec son livre qui est toujours, étant donné qu'il est en hypertexte, en évolution, et vous pouvez rentrer dedans comme vous l'entendez. Écoutons Bruno pour le deuxième entretien.
Enfin, Bruno, vraiment, il n'y a pas d'amour heureux ?
Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si, il y a des amours heureux. Bien sûr que si. J'ai pas connu Aragon, j'ai pas eu ce plaisir. J'ai connu un petit peu par derrière. Je crois qu'il est, je dirais, mais c'est qu'une hypothèse, avec d'autres dions, qu'il est, en tout cas dans le poème, héritier d'un certain romantisme qui voudrait que la passion ne soit pas compatible avec le bonheur, que la passion est forcément souffrance. C'est le Montagnard qui va revenir. Il y a eu aussi passé un temps une idée dans la montagne que le Montagnard ne devait qu'être un dur qui devait en baver. Je pourrais un peu employer un mot pire. Et puis après, bon, de nouveaux montagnards, on dit non, la montagne, c'est l'effort, mais c'est aussi le plaisir, c'est aussi la joie, c'est aussi le bonheur. D'accord, on en bat, on porte un sac lourd, mais on y va pour se faire plaisir, on n'y va pas pour souffrir. Et donc, je pense que dans ce poème qui est très beau, il y a cette idée qu'il y a incompatibilité entre l'extase de la passion et le bonheur de l'amour. Et moi, je dis non, ça n'est pas vrai. Par contre, ça ne peut pas se vivre tout le temps et au même moment. C'est-à-dire que la passion amoureuse et l'intensité, et en particulier l'intensité sexuelle, doit d'abord être rare et relativement brève. Pourquoi ? Parce qu'elle demande une énergie fantastique et qu'elle met en plus l'individu en danger, parce qu'il est entièrement consacré à cela. Donc ça ne peut pas durer. Ça ne peut être que rare. On ne peut pas vivre une passion amoureuse et sexuelle pendant une période prolongée. Ceux qui l'ont fait, qu'est-ce qui se passe ? Ou ils détruisent leur vie, comme des drogués, ou à un moment, ils se sont tellement épuisés l'un l'autre qu'ils n'ont plus d'autre solution que de se rejeter. Parce que ça devient insupportable. Ils ne peuvent plus, ils sont incapables de vivre la vie de tous les jours. Et c'est ça, peut-être, que dit le poème. Et si je l'avais à le reprendre, je dirais, il n'y a pas de passion amoureuse vivable éternellement. C'est-à-dire que si on veut trop prolonger, on va casser.
Et si je vous dis, Bruno, essayons dans un couple une vie passionnante inventée au quotidien de façon à ce qu'elle soit enchantante et enchantée. Vous répondez quoi ?
Alors, je dirais oui à une vie passionnante, non à une vie passionnelle. C'est-à-dire, oui, des moments passionnels. Je parlais du clair de lune. On dit, c'est fantastique, on oublie tout. C'est ce qu'un grand théoricien de la psychologie du bonheur, qui est Csikszentmihalyi, il a un nom très difficile à prononcer, a appelé un état d'extase. Il a une autre expression, ça va me revenir. C'est-à-dire un moment où tout semble être bien. Mais ce moment ne peut être que rare et relativement bref. Donc il faut être prêt à le vivre quand il arrive, éventuellement le rechercher, mais ne pas vouloir le forcer. Et puis, en dehors de cela, l'amour dans la vie conjugale, il peut se manifester autrement. Faire la cuisine ensemble, par exemple, c'est aussi un acte amoureux. Discuter ensemble de l'ado qui vous fait des misères parce qu'il ne faut rien à l'école et à qui on a envie de flanquer des baffes mais qu'on ne fera pas parce qu'on va essayer de trouver une solution, ça aussi, c'est quelque chose de fantastique, même si la discussion consiste à dire « mais tu l'as trop gâté, mais tu as été trop sévère avec lui », oui, ça va être difficile, mais ça aussi, ça peut être une manifestation de l'amour. Et on peut vivre avec la même personne des moments comme ça, qui seront longs, et des moments où on est passionné, où on passe 3-4 jours ensemble à faire l'amour, à faire des choses. On peut vivre, mais on ne peut pas le faire en même temps. On ne peut pas le faire tout le temps. Il faut pouvoir alterner. Et c'est cette alternance qui va donner une stabilité au couple et une capacité d'être heureuse. Mais n'oublions pas, la machine cybernétique, hein, qu'il faut qu'elle assure sa stabilité. Elle ne peut pas être en accélération tout le temps parce qu'elle va se casser la figure. Il faut qu'elle soit en équilibre.
Avant de terminer cette émission, Bruno, et de vous reposer la question qui était au cœur de cette émission, je vous propose de répondre à ce petit questionnaire que j'ai construit, qui est différent du questionnaire de Bernard Pivot et encore plus de Marcel Proust, et qui comporte 12 questions. Alors je vais vous les poser simplement, vous avez droit à tous les jokers que vous voulez. Trois mots qui rendent présent votre enfance.
Trois mots qui rendent présent mon enfance. Le premier mot, mais qui est une expression, c'est « amour inconditionnel ». Un deuxième mot, c'est peur de la vie. Un troisième mot, ça serait intelligence.
Trois personnes vivantes que vous admirez le plus.
André Comte-Sponville, un savant qui est peut-être peu connu, mais dont je viens de lire un livre, qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui est professeur de neurosciences au Collège de France. Dans le domaine sportif, oui, bon, il me vient un sportif extraordinaire qui est Sergueï Boubka, qui a été pendant 22 ans ou 25 ans, je crois, recordman du monde du saut à la perche. Je connais très peu, mais
selon vous, à ce jour, qu'est-ce que vous avez le plus négligé de vous ?
L'ambition.
Trois rêves pour la suite de votre voyage terrestre.
Que les idées que je développe dans le présent livre soit connu, apprécié et critiqué.
C'est un rêve. Et deux autres ?
Les deux autres, de faire le tour du monde, Le troisième, d'avoir la joie de pouvoir discuter avec mes arrière-petits-enfants.
Selon vous, qu'est-ce que vous laisserez en friche inévitablement après votre mort ?
La tentative exagérément ambitieuse de réconcilier la science exacte et la science humaine.
Vous avez tous les pouvoirs. Quels sont les trois actes majeurs que vous posez ?
J'ai tous les pouvoirs. Je vais m'attirer beaucoup d'ennuis. Mais remettre en cause ce discours actuel sur l'égalité des sexes qui n'est que nuisible à chacun des deux sexes. Créer une monnaie internationale qui serait un peu l'équivalent du système métrique, c'est-à-dire que chacun peut l'utiliser selon sa version. Et la troisième chose, fixer, alors je ne sais pas exactement, mais fixer une limite absolue à la recherche sur l'être humain.
Votre devise ?
La vie est un combat.
Selon vous, quels sont les trois mots qui vous viennent à l'esprit pour parler de l'autre, spontanément, comme ça ?
Je l'aime, l'autre. Il m'embête et je suis poli. Le vrai mot serait pire. Et j'en ai besoin. Donc, pour résumer, j'ai besoin qu'il...
Selon vous, les trois mots qui viennent à votre esprit pour parler du monde actuel ?
En crise, pas en danger et passionnant.
Selon vous, quelles sont les trois valeurs fondatrices de votre vie ?
Je vais citer un personnage mort que j'ai énormément admiré, qui est Wilhelm Reich, et je vais reprendre les mêmes mots, l'amour, le travail et la connaissance.
Le sens de votre vie, c'est quoi ?
Le sens de ma vie, c'est vivre le plus intensément possible et le plus longtemps possible.
Alors enfin, dernière question, quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose ?
Comment fait-on pour être heureux ?
Merci Bruno. Alors je repose la question du départ. Le couple a-t-il un avenir ?
Oui, absolument. Le couple a un avenir, il faut le réadapter, mais le couple a un avenir. Absolument. Et je crois que ça va être la structure, des piliers de la société et de sa reproduction. Je pense que la meilleure façon de reproduire l'espèce humaine, c'est de le faire en l'appuyant sur le couple, et sur le couple parental.
Donc vous êtes optimiste à l'égard du couple, quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les épreuves, vous y croyez ?
Oh oui, j'y crois. Je crois que c'est une structure vivable. Je ne crois pas que ce soit la seule. Hein. On aurait pu voir, il y a d'autres sociétés qui n'étaient pas fondées sur le couple et qui ont fait des choses.
Redites-nous votre site où on peut vous retrouver et prolonger cet entretien.
Alors, le meilleur site, c'est mon site personnel, psy. psy-lepetit-decoret-monnom.fr psy-decoret.fr. On y trouvera tout sur moi et on y trouvera la citation du livre site couple que je viens d'écrire, sur lequel vous m'avez interrogé.
Qui est en hypertexte et qui est aussi achetable par écrit.
Voilà.
Et qui continue, que vous continuez sans
cesse. Qui continue et qui ne sera jamais achevé.
Voilà, et auquel, à la limite, les auteurs divers peuvent être tout simplement vos lecteurs.
Absolument.
Donc c'est quelque chose du genre du dialogique en permanence.
Absolument, et où il peut être rajouté des éléments écrits par d'autres.
Voilà, je trouve ça fabuleux. Je recommande ce livre qui est aussi par écrit, Couple au pluriel, théorie, pratique, histoire, études. C'est un livre d'une richesse rare. Il y a relativement peu de livres sur le couple actuellement. Il y a peu de travaux intéressants. Merci beaucoup Bruno, et en tout cas je suis ravi de vous avoir choisi pour cette émission sur le couple, parce que vous réunissez justement les trois dimensions fondamentales pour pouvoir en parler convenablement, à savoir votre propre démarche, vos recherches personnelles qui ont une connotation universitaire mais qui dépassent amplement l'université, et Dieu que à notre époque c'est important, et puis enfin cette écoute de plus de 2000 personnes qui est absolument extraordinaire. Alors en vous écoutant, je vais vous dire de façon subjective la lecture que j'ai j'ai eu en vous écoutant le plus attentivement possible. Je me disais que il faut que nous, je dis bien il faut parce que je crois que c'est presque de l'ordre du devoir, construire une nouvelle anthropologie. Et je vais essayer d'opposer des choses qui étaient hier et qui ne peuvent plus être par rapport à des choses qui apparaissent désormais essentielles pour l'avenir. Car c'est une pluralité de situations qui construit le couple. Ce n'est pas que l'amour passionnel, c'est l'amour qui traverse tout, y compris l'épreuve, y compris parfois le cri de désespoir, y compris parfois le gâteau qui est raté, et on se retrouve et on s'aime encore plus qu'avant. Il y a une autre dimension, j'en ai trouvé sept, il y a cette histoire de sécurité-insécurité. On ne peut pas fonctionner si on n'a pas un minimum de sécurité pour affronter l'insécurité. Il nous faut donc trouver les éléments d'une régulation de cette sécurité-insécurité qui est désormais la chose. Hier, l'anthropologie nous disait que le couple, une fois qu'on se mariait, était acquis. Sous une autre forme, il n'y avait pas de construit. Maintenant, c'est le construit qui fait le couple et pas l'acquis. Puis il y a une autre dimension, c'est que hier il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait que des petites histoires, et parfois une histoire tragique, et que l'histoire, maintenant du coup, c'est une véritable histoire qui se construit chaque jour. C'est un récit absolument fabuleux à pouvoir inventer. Et puis, peut-être que la dernière dimension du couple, vous l'avez repris dans les mots-clés pour vous, c'est tout simplement la connaissance. Car la connaissance n'est pas le savoir, et la connaissance écrite en deux mots, c'est la meilleure façon de connaître toute une vie, et une vie ne suffit pas, donc il faudrait pouvoir un jour inventer un couple qui dépasse la vie.
Oui, ça serait très bien.
Merci beaucoup.
Merci Michel pour cette
émission. Et merci d'être venu de Lyon pour cette émission.
Merci.
Voilà. Pour entendre la totalité de l'entretien avec Bruno de Coré, allez sur le site, encore une fois, relié en petits caractères, art au pluriel, culture au pluriel, éducationsingulier.com/. Vous y trouverez l'émission de ce soir avec une note de synthèse, toutes les références livresses dont je vous ai parlé et dont je n'ai pas eu le temps de parler, et d'autres commentaires qui vous seront, à mon avis, très utiles. Et la totalité de l'émission qui dure, encore une fois, plus d'une heure et quart. Alors, avant d'écouter la chanson que Bruno nous a proposée comme pour terminer cette émission, je voudrais faire un tout petit commentaire. Oui, le couple a un avenir, vous avez bien compris. Mais alors la question est, pour chacun d'entre nous, quel couple souhaitons-nous ? Si nous cherchons le prince charmant ou la princesse charmante, elle n'existe pas, on fait fausse route. Chacun est inachevé, imparfait, plus ou moins soucieux d'accoucher ce qui n'est pas encore, et parfois à renoncer à le faire. Si vous cherchez votre moitié, vous faites fausse route, car chacun est un, et non pas la moitié de l'autre. Un rappel, on ne naît pas spontanément couple, on le construit. Et dans cette construction, l'être humain intervient comme corps, cœur, esprit, intelligence au pluriel, sens, avec convergence ou divergence du désir, de la volonté, de l'engagement, avec la question de savoir quel est le rêve qui fonde notre vie, quel est le chemin faisant que l'on souhaite, quel amour on privilégie. Et dans ce cadre-là, il me semble qu'il y a cinq repères qui peuvent nous aider à mieux nous situer. Le premier, c'est la vie en parallèle. 1 + 1 = 2. Le deuxième, c'est la destruction. 1 + 1 = 0. Le troisième, c'est l'illusion. 1 + 1 = 1. C'est l'illusion et la fusion. Et la confusion. 4. La dispersion, négation de la durée de la construction dans la création, 1 + x = z. Et puis enfin, le couple se construisant, 1 + 1 = 3. Il est étrange de constater, d'une part actuellement, que pour la majorité des êtres, l'amour est primordial et la vie à deux fondamentale. Mais d'autre part, la légèreté, l'insouciance avec lesquelles on pratique et l'amour et le couple est troublant. Très récemment, un couple que j'admire énormément répond ainsi à la question que je pose. Cette question était la suivante, mais quel est le secret de votre couple ? Et la réponse vient d'abord de la femme, c'est quand l'autre est plus important que soi. Et le mari d'ajouter, en réciprocité. Ce couple ne savait pas, au moment où il me disait ça, qu'il reprenait un commentaire de Bachelard dans le très beau livre du jeu et du tu de Martin Buber. Gaston Bachelard dit qu'il faut avoir dit « tu » pour dire « nous ». Et il ajoute ceci, « ce qui est le plus précieux, c'est la réciprocité ».
on ne la trouve jamais sur l'axe du « je, cela ». Elle n'apparaît vraiment que sur l'axe où oscille, où vibre le « je » et le « tu ». Alors, l'être rencontré se soucie du « moi » comme je me soucie de lui, il espère en moi comme j'espère en lui. Voilà quelques pistes. À vous de décider le couple que vous souhaitez concevoir. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous mettrai les 5 ouvrages dont j'ai parlé dans cette émission. J'y rajoute, puisque nous avons quelques minutes, la revue Sciences Humaines qui a fait un très bon numéro « Aimer au XXIe siècle » ou « Comment faire couple aujourd'hui ?» et puis la revue Cerveau et Psy. Souvent, les neurosciences avancent rapidement. C'est ainsi que l'amour ne dure que 3 ans, a été une interprétation plus que discutable, disons fausse, de certains travaux de neurosciences. Vous verrez dans cette revue en particulier que les neurosciences s'intéressent à la durée, à quelles conditions peut-on durer à deux dans la vie. Alors, voilà des perspectives très ouvertes. Je vous donne rendez-vous mardi. Nous aurons une émission sur Femmes en humanité et ça sera la première d'une série d'émissions. C'est une femme que vous avez déjà entendue à l'antenne, mais cette fois, nous ferons son chemin faisant et nous commencerons par poser à un philosophe la question « Est-ce que la femme qui s'en vient sera encore la femme d'hier ?» Et puis, mercredi 30, nous recevrons 2 écrivains de la région, PACA, une femme et un homme, sur le thème « Violence, haine et solidarité ». Mais pour nous quitter, et prenons le temps d'écouter cette très belle chanson. Écoutez.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi, comme un oiseau blessé. Et cela sans savoir, nous regarde passer. Répétant après moi ces mots que j'ai dressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare, il n'y a